Lettres romandes, un podcast littéraire et irrégulier proposé par Julien Sansonance. 9e épisode, je reçois l'écrivain Marion Brunet pour son roman L'été circulaire, paru en 2018 chez Albin Michel. Marion Brunet, bienvenue, merci d'avoir accepté cette invitation pour notre podcast Lettres romandes. Bonjour, est-ce qu'il faut dire écrivain, écrivaine, autrice, auteur, qu'est-ce que vous préférez ?
Ah, je sais pas, c'est un peu compliqué pour moi, j'y réfléchis, j'ai tendance à dire auteur avec un E, parce que ça a quelque chose de plus global, mais en même temps je trouve un certain intérêt aussi à ce qu'on retrouve la féminisation qui existait auparavant, qui était donc autrice, mais c'est vrai que j'ai tendance encore à dire auteur.
Je ne sais pas ce qu'il en est en France, en tout cas en Suisse, c'est une question qui est discutée, qui est presque politique parmi les autrices et les auteurs. Il y a plusieurs familles, il y a les auteurs, les autrices. Ça dépend peut-être du niveau d'engagement féministe aussi des auteurs en question. Est-ce que vous-même vous décririez comme une écrivain ou même une personne féministe ?
Oui, complètement. Et même, donc du coup, effectivement, j'aurais tendance à politiquement utiliser le mot autrice. Je pense que j'y suis pas encore complètement habituée. Donc, il y a aussi le côté old school qui me rattrape j'ai tendance à dire auteur. Mais sinon, au niveau du principe, si, je trouve ça plutôt très bien qu'on dise autrice.
D'accord, très bien. Alors, avant de parler de votre livre, on est évidemment en période un petit peu particulière, en période de confinement. De semi-confinement pour la Suisse, mais le principe est plus ou moins le même. Peut-être vous demander comment allez-vous et comment est-ce que vous vivez cette situation un petit peu particulière ?
Je suis confinée dans des conditions que je considère comme privilégiées, puisque je suis dans un appartement de taille tout à fait raisonnable, et que je pense que par contre ça doit être assez terrible pour pas mal de gens qui vivent dans des conditions beaucoup plus difficiles que les miennes. Après oui, c'est assez anxiogène, hein, ça, je pense qu'on n'y échappe pas, quelle que soit la taille de nos maisons. Donc plutôt anxieuse, j'ai du mal à écrire. Au début, j'ai réussi, je me suis dit, t'as du temps devant toi, t'as l'obligation presque d'être derrière ton ordi, donc tu t'y mets, et puisque je suis sur un roman en cours. Les premiers jours, ça a plutôt pas mal marché. Là, je dois dire que le temps passant, ça devient de plus en plus compliqué. Je trouve que c'est pas non plus une période facile.
Alors justement, je voulais vous demander si on peut, d'après vous, tirer quelque chose d'un point de vue littéraire de cette période. Vous savez qu'il y a un nouveau genre qui commence à apparaître, hein, qui est le roman de confinement ou le journal de confinement. Un certain nombre d'auteurs et d'autrices nous proposent le journal du confinement avec une qualité peut-être un petit peu variable entre les différents journaux. On peut aussi imaginer à quoi risque de ressembler ou va ressembler la prochaine rentrée littéraire, pour autant qu'elle ait eu lieu, hein, mais on peut imaginer qu'un certain nombre de romans vont se dérouler dans le contexte du confinement. Qu'est-ce que vous en pensez de ce type de littérature-là ? Est-ce que vous en pensez quelque chose ?
Alors, de ce que j'ai lu, moi, c'est plutôt quelque chose qui me met très en colère, parce que ce que j'en ai lu, ce sont des auteurs et des autrices ultra privilégiés, et qui racontent leur confinement. Ça frôle l'indécence, en mon sens. Ça frôle pas, d'ailleurs. Je pense qu'on est complètement dans l'indécence. On est dans le déni du reste du monde. On est hors sol.
Beaucoup critiqués, hein, sur ce côté très bourgeois qui s'ennuient un petit peu dans leur parc et dans leur grand jardin, et puis qui regardent le ciel sans avion. Et qui regardent tournoyer les oiseaux. C'est pas tout à fait votre littérature, je pense.
Non, pas du tout. Oui, je pense que ça vient juste appuyer des choses qui étaient déjà là avant le confinement. Ça vient juste confirmer, et ça vient... Et c'est pas inintéressant en soi d'identifier aussi quel type de journaux de confinement émerge de ce type de vie. Et voilà, je trouve que ça correspond bien à l'époque. Et, Et donc ça, non, ça m'afflige. Mmh. Et puis ça, plus que ça, je crois que ça me met vraiment en colère. Mmh. Mmh. Et je pense qu'on a mieux à offrir, j'espère.
Ouais, voilà. Parfait.
Après, il y aura peut-être des journaux intéressants. Je sais pas, il faudrait que je lise, parce qu'à part ces journaux-là, j'en ai pas lu d'autres, j'ai pas lu de textes vraiment, alors à la limite peut-être des textes, oui, réflexifs, d'analyse, d'analyse politique même, de ce qui se joue dans ce confinement, dans les prises de position politique liées au coronavirus. Après, est-ce que ça va aussi donner des idées aux gens qui sont confinés chez eux et qui, du coup, ont du temps pour explorer des idées qu'ils avaient et qu'ils n'avaient pas le temps d'écrire ou de dérouler, peut-être ?
Oui, oui, oui.
Voilà.
Peut-être
ça,
que des expérimentations littéraires sont possibles sur de nouveaux formats, peut-être que des blogs qui étaient en sommeil depuis plusieurs mois, plusieurs années vont être réactivés. C'est pas impossible que ça donne lieu à des choses intéressantes en littérature, peut-être. On pourrait être surpris. En Suisse, on dit « déçu en bien ». C'est l'expression qu'on utilise.
J'aime bien.
Voilà, on va peut-être être déçu en bien de la prochaine rentrée littéraire, à voir. Ce qui est plus inquiétant, c'est évidemment la situation des maisons d'édition, en particulier des petites maisons d'édition qui survivaient parfois difficilement avant la période qu'on connaît et qui risquent malheureusement effectivement de disparaître. Et ça, c'est sans parler des librairies et toute la chaîne du livre.
Les librairies, ça va être une catastrophe. Hein. C'est...
Ouais.
C'est terrible.
Tout à fait.
D'autant que le gouvernement n'a pas été capable de mettre un frein définitif à l'activité d'Amazon. Mmh. Et donc ça laisse la porte ouverte à ce géant-là qui va récolter énormément en même temps que les petites librairies vont mourir.
Oui, tout à fait. Ils embauchent d'ailleurs à tour de bras hein, tout ce qui est livraison à domicile. C'est un secteur, je le dis avec un petit peu de cynisme, mais ça semble un secteur d'avenir, hein, tout ce qui est livraison à la maison de livres et de services.
Oui, alors ça, c'est l'autre sujet qui me met très en colère.
Ouais.
Oui, ça me met très en colère. Je pense que c'est justement peut-être encore plus une période où il faut s'interroger là-dessus et se rendre compte que non, c'est pas possible. Enfin, quand quelque chose arrive à la maison, c'est pas arrivé tout seul. Hein. Il
c'est
s'est
ça.
Pas mis tout seul dans son petit carton. Et qu'il y a des gens derrière et que les conditions de travail sont pas les mêmes, justement, pour ces gens-là. Et on leur dit pas de rester chez eux, on leur dit pas de rester confinés, on les envoie travailler avec les risques que ça comporte. Et donc non, moi je me suis même disputée avec plusieurs personnes qui continuent de faire appel à ces services de livraison. Et moi, je trouve que c'est... éthiquement, c'est pas argumentable.
Tout à fait. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est en France. En tout cas, en Suisse, il y a beaucoup de librairies qui font savoir qu'elles envoient aussi elles-mêmes les livres par la poste. Donc, voilà, peut-être encourager nos auditeurs à se renseigner auprès de leur librairie habituelle qui est probablement et même certainement fermée, mais qui, pour le coup, parfois, continue à fonctionner, même si elle est fermée pour les envois.
Alors, la poste, le problème, c'est que je pense que dans pas mal d'endroits, elle ne fonctionne plus. En tout cas, chez nous, elle ne fonctionne plus. En revanche, je sais que, par exemple, ma librairie de quartier, ils sont en train d'envisager un petit peu comme quand on va chez le boulanger et qu'il y a une petite file d'attente avec de l'espace et, en fait, les gens commanderaient. Et où il y aurait une livraison directe en fait voilà, avec toutes les barrières de sécurité qui permettraient ça et des commandes en amont pour que les livres soient mis de côté pour des gens qui viendraient les acheter.
Absolument. Ouais. En tous les cas, adressez-vous à votre libraire de quartier.
Oui.
Ils en ont plus que jamais besoin. Alors, on va parler de votre roman L'été circulaire, qui n'est pas votre dernier roman, mais qui est paru en 2018. Comment vous parleriez de ce livre ? Comment vous le résumeriez en quelques lignes ?
Alors, je vous raconte un petit peu l'histoire.
Oui, sans dire la fin, évidemment. Mais...
Non, bien sûr. Non, puisqu'en plus, c'est effectivement, sans être un polar, c'est un roman noir.
C'est un roman noir, tout à fait.
Avec effectivement un mystère, en tout cas plusieurs mystères qui ce serait dommage de révéler dès le début. Donc, c'est l'histoire d'une famille qui vit dans le sud de la France, un milieu plutôt défavorisé, sans être misérable. Deux sœurs de 15 et 16 ans, Jo et Céline, vivent donc avec deux parents, un père maçon, une mère cantinière, un petit peu en périphérie d'une petite ville du Vaucluse. Et le roman s'ouvre sur l'annonce de la grossesse de Céline, l'aînée, qui a 16 ans, et qui, sous les claques de son père, refuse de donner le nom du père. Le nom du géniteur, de la personne qui l'a mise enceinte. Voilà. Donc, c'est à ça. Partir de là, le roman va se construire autour d'une tension, de la tension du père, qui assez violent, qui va chercher un petit peu des coupables, des responsables, à la fois à cette situation et en même temps, à travers ça, on voit aussi comment lui, il est aussi humilié par le système et comment cette revanche qu'il va essayer de prendre, elle est aussi liée à sa propre vie, à ses propres échecs et à une situation sociale difficile.
Tout à fait. Alors, on va parler de l'humiliation qui semble effectivement un thème qui traverse un petit peu le livre. Moi, j'ai aussi trouvé, alors c'est d'abord un excellent roman, j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire, et puis je suis content de vous avoir pour vous féliciter pour ce roman qui est vraiment d'une puissance vraiment remarquable. J'ai trouvé que c'était aussi, en particulier, un roman sur l'adolescence. Et je pense qu'il y a... J'ai lu peu de romans sur l'adolescence qui sonnaient aussi juste. J'ai été très frappé, ça m'a... comment est-ce qu'on parle de l'adolescence sans plus être adolescente? Évidemment, on a tous vécu cette période, mais... j'ai trouvé que vous trouviez les mots, les expressions, les situations sonnaient vraiment très justes. Est-ce que c'est un grand roman sur l'adolescence?
Alors, oui, un grand roman, merci. alors, il faut savoir que moi, j'écris aussi en jeunesse. J'ai commencé en jeunesse, mais pas en jeunesse pour tout petit, en jeunesse pour adolescents, justement, et que je mets très, très souvent en scène des adolescents dans mes romans. C'est un petit peu c'est un âge que je trouve particulièrement intéressant, parce que je trouve que c'est vraiment... c'est l'âge romanesque par excellence. Tout se joue, tout est nouveau, en fait, dans l'adolescence. Donc, les choses sont vécues pour la première fois, donc elles ont cette intensité-là de la première fois. Il y a aussi le moment, c'est un moment de choix, un moment de rupture, de construction individuelle qui parfois va se faire en contre de la famille. Enfin, voilà, c'est vraiment un moment de grand bouleversement. Donc, c'est un âge passionnant. Et après, il est possible aussi peut-être que le fait que j'ai travaillé auprès d'adolescents a pu peut jouer dans ce regard-là. Puisqu'avant d'être auteur, j'étais éducatrice spécialisée et que dans différents lieux de travail, j'ai eu affaire à pas mal à des adolescents. Et je pense aussi que c'est en restant connecté avec la mémoire de ma propre adolescence. Parce qu'au fond, je pense que ce qui se joue dans l'adolescence, quelle que soit la génération, c'est quasiment la même chose. Les codes sont un petit peu différents.
Les expressions ne sont pas les mêmes, les références culturelles ne sont pas les mêmes, mais les difficultés, les souffrances, il y a beaucoup de violence, hein, finalement, dans votre livre, d'une manière générale, et dans l'existence de ces deux sœurs adolescentes.
Mais je pense que l'adolescence, de toute façon, est une période violente. Hein. C'est intérieurement, c'est un moment de violence, c'est un moment où les choses se sont remuées, sont intenses. Donc... je pense vraiment, quelle que soit la génération, même à une époque où le concept d'adolescence n'existait même pas, mais le moment où on devient adulte et où on ne l'est pas encore tout à fait, c'est ce moment de transformation, il est violent. D'ailleurs, on parle souvent de crise d'adolescence, et crisis en grec, ça signifie le choix. C'est vraiment un moment de... Les choix, ça se fait rarement dans la douceur, hein, et un moment où ça... Voilà, on dit choisir, c'est renoncer. Donc, c'est tout un tas c'est un moment d'apprentissage exceptionnel, je trouve.
Ce que j'ai beaucoup apprécié dans votre livre aussi, c'est votre capacité à restituer des climats. Un climat au sens peut-être météorologique, mais surtout un climat social. Et je pense que c'est un roman noir et un roman vraiment à teneur sociale très, très puissante, très forte. L'ambiance des lieux, en l'occurrence le sud de la France, le midi, c'est extrêmement bien restitué. Comment est-ce qu'on fait en tant qu'écrivain, vraiment concrètement, comment est-ce qu'on fait pour restituer des ambiances et des climats comme vous le faites?
Alors, pour celui-ci, je crois que c'est mon premier roman où j'ai décidé de situer géographiquement un roman. Avant celui-là, je pensais au contraire que ne pas situer géographiquement donnait une teinte universelle. Et je me suis rendu compte que c'était peut-être une erreur et qu'en ciblant géographiquement et en parlant vraiment d'un lieu, on pouvait. En fait, ça avait la même valeur universelle, puisque on se rendait compte qu'une tragédie comme celle-là peut tout à fait se dérouler sous un autre climat, dans un autre pays, enfin peut-être pas dans un autre pays, mais en tout cas dans d'autres régions, et que c'était tout de même intéressant d'explorer la géographie comme ça, et que ça donnait une couleur justement, ça
C'est
donnait
ça.
une. Et cette région, c'est une région que je connais bien, donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi voilà, de situer mon roman à cet endroit-là. J'ai trouvé que c'était un endroit assez intéressant parce que c'est vraiment un lieu de contraste. On est à la fois dans des paysages de cartes postales que les touristes adorent venir visiter, et en même temps, c'est une région pauvre. Voilà, il y a une population qui galère, il y a tout ce qui est les zones périurbaines,
C'est
c'est des
ça.
zones très. Très pauvres culturellement, ce sont des régions qui sont pas extrêmement bien pourvues.
C'est ça, et ça, vous l'illustrez très bien avec la scène de la natation dans les piscines, par exemple, des
Oui,
villas.
tout à fait. Il y a vraiment des villas de très riches et des zones très pauvres. Et je trouvais que c'était bien de raconter ça. Enfin voilà, je voulais raconter ce contraste-là et utiliser aussi la chaleur parce que ça rejoignait l'aspect englué que peut avoir cette famille
C'est ça, c'est ça.
d'autres avec elle, mais voilà, comment on est englué aussi dans des situations, dans la pauvreté, dans la difficulté à sortir de certains systèmes familiaux, et ça allait bien avec la chaleur du sud et le côté collant, transpirant.
Ouais, c'est ça. On le sent très bien et c'est effectivement très réussi. Ça m'a fait penser aussi aux premières lignes de l'étranger avec le rôle finalement du soleil, de la chaleur. Hein. On entre dans une sorte de délire. Il y a quelque chose collant, effectivement, d'assez glauque, et ça se passe sous un soleil éclatant.
Oui. Alors c'est une comparaison évidemment, qui me réjouit. Oui, vous imaginez bien. Et en plus, vous n'êtes pas le premier à me faire le retour, faire cette comparaison avec l'étranger, auquel je n'ai pas pensé, hein, quand j'ai écrit les circulaires, mais c'est une comparaison qui me touche beaucoup.
Tout à fait. Alors l'ambiance, on va y venir, une ambiance qu'on peut qualifier de lourde, voire de glauque. Vous pénétrez finalement dans l'intimité d'une famille, vous l'avez dit, une famille modeste qui, sans être vraiment pauvre, ne roule pas sur l'or. À nouveau, un petit peu comme la question que je vous ai posée sur l'adolescence, d'où vous vient cette connaissance finalement de ce type de milieu social? Est-ce que c'est par votre expérience professionnelle précédente? Parce qu'on sent que derrière, il y a... Je ne sais pas s'il faut parler de documentation, mais en tout cas, ça sonne à nouveau très juste.
Non, alors effectivement, il n'y a pas du tout de travail de documentation. Oui, je pense qu'effectivement, mon travail précédent m'accompagne, en tout cas dans la création de ces univers et de ces personnages. Mais je pense que c'est aussi l'observation, l'écoute. Il n'y a pas forcément besoin de connaître intimement ce milieu-là pour, je pense, en saisir le cœur, juste en laissant parfois traîner ses oreilles, en étant observateur d'autre chose que de son propre milieu. Et c'est un peu le job d'un auteur quand même d'aller aussi, pour moi, d'être en capacité de parler d'univers qui sont pas forcément les siens, et de ne pas parler que de soi. Enfin, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur les journaux de confinement. À un moment, soit on se regarde le nombril et on parle que de son précaré, de ce qu'on connaît, ou alors on va aussi un petit peu ailleurs.
Tout à
Et
fait.
c'est quand même là que ça devient intéressant. Par ailleurs, ce que je pense mon ancien travail m'a offert en termes de nourriture pour ce que je mets dans mes romans, je pense que c'est un regard et c'est une bienveillance. Une bienveillance pour mes personnages et la volonté de ne pas les juger.
une bienveillance, mais d'un autre côté, vous êtes quand même sans concession avec eux. Vous êtes, c'est aussi ce qui m'a plu dans votre livre, c'est que finalement, vous parlez d'un milieu social modeste, sans le recouvrir quantité de bons sentiments qui parfois dénaturent les romans et la littérature en particulier. Là, je trouve que vous êtes assez cash, si on peut dire, vous êtes assez brut dans votre description et... Je l'ai trouvé presque un peu politiquement incorrect parfois, dans le bon sens du terme, dans le meilleur sens du terme, parce que tout ça n'est pas enrobé de bons sentiments, de paternalisme et de... Vous voyez ce que je veux dire ?
Mais tout à fait, mais parce que justement, je pense qu'enrobé de bons sentiments et de paternalisme, c'est une forme de mépris. Mm-hmm. Et je ne méprise pas mes personnages, je ne méprise pas les gens qui viennent de ce milieu-là. Donc, pour moi, justement, ça va ensemble, en fait, la description cash et l'absence de jugement. Et c'est ça, pour moi, en fait, comment dire, c'est en ça, pour moi, que je les respecte profondément.
Tout à fait. Voilà. Alors, l'actualité, bien sûr, change très vite. On n'est plus vraiment dans la séquence des gilets jaunes aujourd'hui. On est dans tout à fait autre chose, même si probablement que les problèmes demeurent et n'ont pas été résolus. Moi, c'est vrai, quand j'ai commandé votre livre, je cherchais un livre qui parlait un petit peu de la France des gilets jaunes, finalement, de la France d'en bas, de la France profonde. C'est ça qui m'intéressait. Est-ce que vous avez fait ce type de roman-là, finalement, qui parle de cette France-là, cette France invisible, cette France qui, tout d'un coup, s'est exprimée sur les ronds-points de manière très forte, cette France qu'on ne voit pas dans les films, qu'on ne voit pas dans les journaux télévisés? Est-ce que c'est de cette France-là dont vous parlez?
Alors, sans doute, mais quand j'ai écrit l'été circulaire, le mouvement des Gilets jaunes n'avait pas commencé. Donc, je n'en avais pas connaissance. Oui. Et en revanche, oui, je pense qu'après, moi, quand je l'ai écrit, je ne me suis pas appuyée sur ni un mouvement, ni une volonté de décrire un mouvement, mais plus d'une histoire qui disait des choses que je ressens et que je pense, qui est effectivement l'abandon de certaines populations, la détresse de certaines populations. Je voulais aussi parler du constat terrible de la reproduction sociale qu'on retrouve dans le roman, hein, puisque voilà, la fille est faite finalement comme la mère et y a ce côté, on n'en sort pas, quoi. Et je voulais peut-être juste mettre le doigt sur des choses. Après, je crois pas que ce soit un roman d'analyse. On peut en faire des analyses. Le lecteur peut en faire une analyse. Mais j'ai eu l'impression que je décris que je raconte une histoire avant tout, et que la prise de position politique, elle est presque dans le choix de mes personnages. Quel type de famille je raconte, quel type d'histoire je raconte, et ça, c'est politique.
C'est ça. Alors, pour rester sur cette dimension politique, comment est-ce que votre roman a été reçu, notamment sur ces questions politiques, notamment sur le fait de parler comme ça de cette France d'en bas, des petites gens, comment est-ce que tout ça a été reçu ?
Plutôt bien. Je dois dire que c'est mon premier roman en adulte, puisque les autres étaient sortis dans des collections pour adolescents, et j'ai eu un très bel accueil. Que ce soit la presse ou les rencontres que j'ai pu faire ensuite en librairie, j'ai senti un vrai écho, en tout cas avec les lecteurs. J'ai entendu des choses très touchantes. J'ai eu des courriers aussi, des courriers de personnes me disant j'ai grandi dans cet univers-là, merci d'avoir écrit ce bouquin, des choses très très touchantes. C'était cadeau, quoi. C'est vraiment des choses qui touchent énormément, justement parce que moi je n'ai pas grandi dans une famille comme celle-là, donc je ne parle pas de ma propre expérience. Donc c'était très touchant d'entendre des gens me dire moi j'ai grandi dans ce milieu-là, et vous en parlez incroyablement bien. Il y a même une personne qui m'a dit, ça m'a permis de presque me réconcilier dans ma tête avec mon père.
Ça peut aller jusque-là.
Ça, c'était magnifique. Voilà.
Ouais, tout à fait. On va parler un petit peu de vos personnages. Donc, il y a les deux sœurs, Johanna et Céline, et puis il y a le père qui occupe vraiment un rôle central dans cette histoire, Manuel. Qu'est-ce qui anime cet homme? On sent qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses qui se passent en lui. Est-ce que c'est de l'orgueil?
Non, moi je pense que c'est beaucoup d'impuissance en fait. Je pense que c'est de l'orgueil, mais de l'orgueil blessé. C'est-à-dire que ce qui devient de l'orgueil, c'est l'endroit où le droit d'être est nié. Donc ça développe aussi une forme de violence orgueilleuse, mais au départ c'est surtout un homme à terre. Et c'est un homme aussi qui n'a pas les mots. Il n'a pas les mots, donc du coup il met des coups. C'est son... Bon, ça, je suis intimement persuadée que plus on a les mots, moins on met les mains.
c'est intéressant.
Et lui, voilà, il a pas tous les codes, il a pas les mots. Il a cru s'extirper d'un milieu, d'un univers, et finalement tout le ramène à sa situation de fauché, de gars qui est un manuel. C'est son nom n'est pas anodin non plus. Alors, c'est à la fois le nom d'un immigré, puisqu'il c'est un immigré, fils d'immigré espagnol, donc étranger. Au départ, lui aussi, comme Saïd, qu'on rencontre par la suite. Et il a espéré pouvoir un petit peu sortir de cet état-là. Et non, en fait, sa belle famille, sa situation, tout le ramène à une sorte d'échec.
C'est un personnage qui entretient une relation complexe, je trouve, à la masculinité, à la virilité, qui est exacerbée. Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Et puis, est-ce que ce personnage aurait pu être une femme, finalement?
Je pense pas, non. Là, je pense qu'on est sur des archétypes. J'emploie le terme d'archétype plus que de cliché, parce que j'espère ne pas avoir été dans les clichés. Mais c'est un archétype que, pour le coup, j'ai pu largement rencontrer en vivant dans le Sud depuis un nombre d'années, quand même. Oui, c'est quand même des régions où on peut rencontrer...
Ce type de personnage
doit exister,
effectivement.
Complètement, avec des visions assez sexistes, avec qui portent leur orgueil aussi sur la vertu de leur fille, hein, ça. Puis il n'y a peut-être pas besoin d'aller aussi loin dans les campagnes pour en trouver des similaires, même si leurs moyens d'expression ne sont pas exactement les mêmes.
Certainement. J'avais vu dans les remerciements que vous adressez à la fin du livre, vous remerciez une personne qui vous a un petit peu fait sentir ou expliquer comment ça se passait sur les chantiers. C'est intéressant, ça.
Oui, tout à fait. C'était un vieux copain qui vit toujours dans le Vaucluse et qui est maçon. Et donc, au moment où, en fait, concrètement, j'avais besoin d'explications concrètes que je ne peux pas dire là, sinon je vais spoiler une partie aux lecteurs qui ne connaissent pas le livre, mais j'avais besoin, voilà, vu que vous qui l'avez lu, vous voyez de quoi je parle.
Ouais, certainement.
Et je ne voulais pas que ce soit faux, puisque je ne connais pas la maçonnerie, et voilà, je ne voulais pas employer des termes. Et du coup, au départ, je l'avais contacté pour ça, pour avoir un petit peu des informations concrètes sur le matériel qu'on utilise et on s'est mis à discuter et je lui ai dit mais, oui, raconte-moi un petit peu comment ça se passe sur les chantiers et d'ailleurs il m'en a raconté beaucoup plus que ce que j'ai mis dans le bouquin. Moi j'ai utilisé un petit peu mais c'était super intéressant et ça parlait effectivement là pour le coup je me suis... C'est la première fois, je crois, que je faisais un petit travail d'une forme de documentation, quoi, où j'allais un petit peu demander à quelqu'un, tiens, ça, je connais pas ce milieu, tu peux m'en dire un peu plus. Et c'est en ça que, par exemple, tous les liens interraciaux entre de gitans à espagnols, d'espagnols à bon français qui a trois ancêtres au cimetière. C'est lui qui m'a parlé de ça, c'est lui qui m'a dit mais la classification dans les équipes elle est complètement liée aux origines de chacun,
c'est ça.
Et pour autant les gens te diront qu'ils sont pas racistes,
mais
le gitan il est comme ceci, l'espagnol il est comme ceci, le marocain il est comme ça, enfin vraiment donc c'était super intéressant,
ouais. Ouais, tout à fait.
Ça m'a donné envie d'ailleurs à l'avenir dans d'autres romans d'aller un petit peu aussi à la recherche de de témoins comme ça qui peuvent me donner un peu de chair de ce qu'ils ont vécu pour nourrir un voilà. texte.
J'avais trouvé intéressant ce remerciement parce qu'il renseignait un petit peu justement sur votre manière de fonctionner, sur votre sur la façon dont vous étiez un peu documenté. Voilà, je trouvais ça intéressant de mettre ça à la fin.
Ouais, ouais. Mais c'était une première et c'était chouette. Je me suis dit que j'allais le réitérer.
Peut-être une dernière question sur les personnages et sur ce livre de manière plus générale. On sent que l'humiliation est un sentiment qui parcourt le livre, qui est très présent. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez voulu particulièrement développer? Quel est votre rapport à ce sentiment d'humiliation?
Je pense que ce que je voulais... Je pense que le but, c'était surtout pour moi, non pas d'excuser la violence, mais de l'expliquer. Et que... Et donc tout passe par le personnage de l'humiliation, elle vient beaucoup autour de ce personnage du père de Manuel, et d'expliquer que toute cette violence, elle n'est pas gratuite en fait, c'est pas intrinsèque, il n'est pas intrinsèquement violent et bas du front, non, il y a aussi ce sentiment-là, ce sentiment d'humiliation et d'impuissance qui est moteur de la violence.
C'est ça.
Je pense que c'est ça que je voulais. Et effectivement, ça rejoint votre question sur le mouvement avec des grosses guillemets de la France d'en bas ou des gilets jaunes. Il y avait cette envie de dire, mais oui, en fait, à un moment donné, la violence, elle a une forme de légitimité.
Ouais, c'est ça.
Quand on se fait écraser la figure, à un moment, on a envie de repousser la botte qui nous écrase la figure.
D'accord, très bien. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette discussion autour de votre très bon roman L'été circulaire. J'invite les auditeurs à le lire de toute urgence. C'est un excellent roman noir, social, qui vous parle de situation d'une famille et dans un contexte, le sud de la France, où on a vraiment l'impression de... Oui, en tout cas en tant que Suisse qui ne connaît pas ce milieu, j'ai trouvé l'immersion vraiment extrêmement réussie et très très pertinente. Peut-être une question pour terminer un petit peu plus un petit peu plus pour en dehors du livre. Est-ce que vous connaissez la littérature suisse?
Du tout.
D'accord.
Du tout. Bah, dites-moi parce que des fois peut-être je ne sais pas.
Quel regard on porte en France sur la littérature suisse? Enfin, pour autant qu'on porte un regard, je ne sais pas trop comment.
Mais c'est ça, c'est-à-dire que je ne suis pas sûr. Peut-être que j'ai lu des auteurs suisses sans savoir qu'ils l'étaient.
Peut-être.
Vous me coincez.
L'auteur suisse dont on a beaucoup parlé le plus, je pense, ces derniers temps, c'est un certain Joël Dicker. Peut-être vous le connaissez.
Ah de non, mais je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu.
Voilà, il a eu énormément. Il a eu beaucoup de succès avec son premier roman, donc sur l'affaire Harry Kéber, un polar.
Mais tout à fait. Mais je ne l'ai pas lu, mais ça, si ça m'intéresse, en tout cas, de le lire. Si j'en ai entendu dire du bien, je lirai volontiers. Ouais. Et vous avez d'autres noms?
Il y a Jacques Chesset qui était il est décédé maintenant depuis quelques années, mais il a été le parrain ou le père des lettres romandes pendant plusieurs décennies. Il a obtenu le prix Goncourt en 1975, sauf erreur. Je crois que c'était dans ces eaux-là, avec L'Ogre, qui est un excellent roman sur le rapport au père, roman assez violent, assez fort aussi, que je vous recommande. Donc Jacques Chesset est un nom important dans la littérature contemporaine en Suisse romande. On peut penser à Ramu aussi. Ramu qui est un écrivain qui a beaucoup écrit, il est monté à Paris, il a beaucoup écrit sur son pays, sur le Valais, le canton de Vaud. C'est un écrivain du terroir qui avait une langue aussi. Quelques noms, mais peut-être Chesset, L'Ogre, son prix Goncourt est vraiment un roman qui mérite d'être lu 30, 40, 40 ans plus tard. Tout à fait.
Eh ben, c'est noté.
Voilà. Très bien, écoutez, merci encore. La qualité de la ligne, malheureusement, est un petit peu en train de se dégrader. Mais c'était un plaisir de discuter avec vous de ce livre. Et puis, je me réjouis sans doute de découvrir le prochain qui est sorti. Comment il s'appelle?
Il y en a eu deux autres depuis.
D'accord.
J'ai donc un western féministe qui s'appelle Sans foi ni loi, qui est sorti chez PKJ en D'accord. septembre. Et mon tout dernier, qui malheureusement est sorti une semaine avant le confinement.
Ouais.
Qui est sorti aussi chez Albin Michel et qui s'appelle Vanda.
D'accord.
Et qui raconte l'histoire d'une femme seule avec son fils de 6 ans, donc qui vit dans une certaine précarité à Marseille, dans D'accord. un cabanon au bord de la mer.
Oui.
Et voilà, et j'espère qu'il aura quand même la possibilité de faire une vie après le confinement.
Ouais, c'est, ouais, c'est terrible. Soit les livres qui sortent juste avant, effectivement, c'est terrible. Et puis tous les manuscrits qui ont été envoyés aussi, et dont on ne sait oui. pas trop ce qu'ils vont devenir. Oui. C'est un petit peu angoissant, effectivement, pour tout le monde.
Mais oui. Après, ça laisse du temps aussi aux gens pour lire en confinement. Donc, ça peut être
absolument, c'est peut-être
un
là.
Moment où, voilà.
Certainement. Ok, merci. Merci beaucoup Marion Brunet.
Merci
puis
à
tout,
vous.
Tout bon à vous. C'était Lettres romandes, un podcast littéraire proposé par Julien Sansonnance. Retrouvez tous nos épisodes et abonnez-vous sur iTunes, Google Podcast et sur lettresromandes.ch. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à mettre un pouce bleu sur Facebook.